Aujourd'hui, j'avais très, très hâte de lancer cette nouvelle série qui s'appelle « En chemin vers la résurrection », une nouvelle série de messages qui va être là dans les prochaines semaines, qui va nous amener jusqu'à Pâques. Et à Pâques, qui est le 31 mars, encerclez cette date dans votre calendrier, ne manquez pas ça, parce que ça va être un dimanche exceptionnel et historique pour notre Église. Je crois et par la foi, je le prophétise. Vous allez voir que c'est en lien avec mon message de ce matin. Nous allons battre tous les records qu'on a depuis 2 ans et demi en termes de baptisés. Pouvez-vous imaginer ça, qu'alors on a baptisé des gens, il y a 3 mois, on a baptisé 27 personnes un dimanche, qui était pour nous complètement fou. Imaginez ça, on ouvre à peine les inscriptions depuis 2 dimanches et on a plus de 25 personnes inscrites pour les baptêmes à Pâques. Ça va être exceptionnel. Alors, à Pâques, évidemment, on va célébrer ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, sa mort et sa résurrection. Évidemment, on va célébrer le baptême de plein de gens et je crois par la foi qu'on va célébrer la résurrection spirituelle de plein de gens qui vont être là pour la première fois ce dimanche-là, qui vont être impactés par la parole de Dieu, par le témoignage des pierres vivantes, des gens qui se font baptiser. Et je crois par la foi qu'il y a des dizaines de personnes qui vont expérimenter la résurrection de Jésus dans leur cœur à Pâques. Ça va être exceptionnel. Mais pendant les prochaines semaines, on va plonger ensemble dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour découvrir ce que la résurrection de Jésus veut dire pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous encore en 2024? Pourquoi est-ce que Jésus est ressuscité? Et pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit ressuscité? C'est pas simplement, on va voir dans les prochaines semaines, que c'est pas seulement un fait historique où il y a eu des centaines de témoins oculaires de la résurrection de Jésus. C'est pas juste un fait historique, mais on va découvrir dans les prochaines semaines, jusqu'à Pâques, pourquoi est-ce qu'on célèbre la Pâque où Jésus est revenu à la vie? Qu'est-ce que ça signifie pour notre foi, pour notre vie? Qu'est-ce que ça signifie pour nous encore aujourd'hui, surtout pour toi aujourd'hui, ce que ça signifie? La résurrection de Jésus, c'est central à tout ce qu'on croit. S'il n'y a pas de résurrection, on n'est pas ici aujourd'hui. La résurrection de Jésus est centrale au message de la Bible. Elle est centrale à l'œuvre de Jésus et la résurrection rend possible que moi aussi, je puisse ressusciter dans ma vie. Il y a des choses en moi qui étaient peut-être mortes, il y a des choses qui étaient éteintes, mais la résurrection de Jésus rend possible que toi et moi aussi, on puisse revenir à la vie. Quelqu'un devrait se risquer un son, quelque chose. Ce matin, j'ai dit que c'était la meilleure réunion. C'est le témoignage de plein de gens aujourd'hui. Il y a des centaines de personnes qui vont franchir les portes de l'Église aujourd'hui qui pourraient dire ça, c'est mon témoignage. La résurrection, c'est pas juste un fait historique il y a 2000 ans, c'est le témoignage de ma vie, où ma vie était peut-être en ruine, il y a des sphères de ma vie qui étaient sans espoir, il y a des choses que j'avais éteintes dans ma vie parce que je me dis jamais je vais pouvoir revivre là-dedans. Il y a des choses qui peut-être semblaient sans issue dans ta vie, mais le message de la résurrection, plein de gens qui pourraient le témoigner, c'est que l'Esprit de Dieu a touché ma vie, la parole de Dieu a été réelle pour moi et Dieu a ramené à la vie des choses qui étaient mortes en moi. La résurrection, c'est ce que ça veut dire. Et ce matin, je vais t'inviter à, le plus possible, mettre de côté les distractions ce matin, ouvrir ton cœur. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré ici ce matin, je ne sais pas dans quel état tu vas écouter ce message en ligne cette semaine, mais ouvre ton cœur dans les prochaines minutes, ouvre ton cœur à la parole de Dieu, à la possibilité que la résurrection de Jésus n'était pas simplement un fait historique dans l'histoire il y a 2000 ans, puis maintenant on le regarde juste comme derrière. Maintenant, c'est arrivé il y a 2000 ans, mais ça ne veut rien dire pour moi. Ouvre ton cœur ce matin à la possibilité que ça puisse être vrai pour toi et que le message d'aujourd'hui, moi je le crois, peut réellement faire une différence dans ta vie. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en forme ce matin. Moi, je suis en forme pour toutes nous réunir ensemble. Okay? Fait que si vous n'êtes pas réveillé, moi, je suis réveillé pour toutes vous. Prenez votre café, relaxez pendant le temps que vous pouvez, encore avant que je commence à exploser. Mais je vous le dis, le message de ce matin, je le crois, je suis dans le plus profond de mes tripes et j'ai une conviction ce matin qu'il y a plein de gens qui vont expérimenter le Dieu de la résurrection ce matin. Que tu arrives ici puis tu dis, il y a plein de choses dans ma vie, ouais, c'est peut-être vrai pour d'autres choses, ou il y a peut-être des sphères de ma vie que oui, peut-être que Dieu peut me ressusciter dans le sens que spirituellement, un jour, je vais être dans sa présence. Non, il y a même des choses en toi que tu as lancé la serviette. Tu peux marcher avec Dieu depuis des années, mais ça fait longtemps que tu as lancé la serviette sur certaines sphères de ta vie où tu dis ça, je ne pourrai jamais revivre là-dedans. Ce matin, c'est le matin où je crois que l'Esprit de Dieu va venir nous réveiller pour nous dire, même ça, Dieu est intéressé par toi. Dieu n'est pas simplement intéressé par ton éternité un jour quand tu seras avec lui. Dieu s'intéresse à ta vie maintenant. Et même ce qui mort en toi maintenant, peut le ramener à la vie. Quelqu'un dit « Amen » à ça. Si tu as de la Bible, tu peux aller avec moi dans le livre de Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37 est un, est un texte très connu. Si tu vas à l'église depuis plus de 20 minutes, 25 minutes, c'est un texte qui est connu. C'est une histoire qui peut être connue dans la Bible. C'est une vision. Le prophète Ézéchiel, le prophète, c'est un homme qui parle au nom de Dieu. Et c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment. Et cet homme-là va avoir une vision. Dieu va lui donner une vision de ce qu'il veut faire dans les cœurs, ce que Dieu veut faire avec les gens dans Ézéchiel 37. Et c'est un texte qui est pré-résurrection de Jésus. Mais c'est simplement pour montrer ce matin, alors qu'on rentre dans une série sur la résurrection, que la résurrection de Jésus, ce n'était pas le plan B, parce que le reste n'a pas marché. Jésus est venu sur terre en plan B, en urgence, pour venir ressusciter, payer nos fautes, vaincre la mort. Non, la résurrection était déjà annoncée. Dans Ézéchiel 37, on a un portrait de ce que Dieu annonçait, de ce que Jésus allait faire pour nous, dans Ézéchiel 37. Alors, il faut lire Ézéchiel 37 à travers des lunettes, de dire, voici ce que Dieu est en train de donner à Ézéchiel des centaines d'années avant que Jésus vienne vaincre la mort une fois pour toutes par sa résurrection. Alors, on va lire ensemble ce texte-là qui nous pointe vers la résurrection de Jésus. Est-ce que ça veut dire pour nous dans Ézéchiel 37, les versets 1 à 10 ensemble? « La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena » C'est Ézéchiel qui parle. « L'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Et il me fit promener sur eux en tous sens. Et j'ai constaté que ses ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? » Est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre, Ézéchiel? Alors je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. » Voici ce que je vous déclare, le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Il y en a ici, c'est une parole pour toi ce matin. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. La résurrection. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alors Ézéchiel, regardez ce qu'il va faire. J'ai prophétisé comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y a eu soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Deux derniers versets. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Alors, j'ai prophétisé donc comme il me l'avait ordonné. Alors, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. » Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Quand Dieu souffle ». Si on n'était pas en post-COVID, j'aurais dit « Souffle vers ton voisin, mais fais pas ça ». Quand Dieu souffle, dans le verset 9, mon titre vient de là, il dit, il prophétise à l'Esprit, il dit « Viens les quatre vents et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent ». J'aimerais te dire ce matin, quand l'Esprit de Dieu souffle sur la vie de quelqu'un, peu importe ce qui était mort, ça doit revivre maintenant. J'aimerais dire, quand l'Esprit de Dieu souffle sur une église, si cette église-là était morte, elle n'a pas le choix de revenir à la vie. Quand Dieu souffle sur quelqu'un, quand Dieu souffle sur une situation, quand Dieu souffle sur un mariage, quand Dieu souffle sur une famille, quand Dieu souffle sur une église, ces choses-là n'ont pas le choix que de revenir à la vie. Ézéchiel a cette vision, il se promène dans une vallée qui représente souvent des moments d'épreuve dans la Bible. Les vallées sont souvent des images qu'on a dans la Bible pour représenter des moments qui sont plus difficiles. Mais imaginez ça, Ézéchiel a cette vision qu'il marche dans une vallée qui est déjà une image d'épreuve, mais il marche au milieu d'ossements desséchés. Il marche au milieu de ce qui paraît mort. Puis c'est pas juste, la Bible va préciser que ce sont pas seulement des ossements, c'est des ossements desséchés. Ça veut dire qu'il n'y a aucune espèce d'espoir là-dedans. On peut pas se dire peut-être qu'il y a de l'espoir. Non, ces ossements-là sont là et ils sont desséchés. Et la vallée remplie d'ossements représente dans la vision que Dieu donne à Ézéchiel, c'est une vision du peuple de Dieu qui manque l'Esprit de Dieu. C'est comme si Dieu lui montre, par tous ces ossements-là, que c'est son peuple qui est séparé de lui, son peuple qui est sans l'Esprit. Et c'est une vision qu'Ézéchiel va avoir de la résurrection spirituelle que Dieu veut nous donner. C'est qu'alors qu'on était morts spirituellement comme des ossements desséchés, lorsque l'Esprit de Dieu va venir en nous, il va nous ramener à la vie. Et c'est la vision qu'Ézéchiel a. Et Dieu va lui demander, c'est vraiment fascinant pour moi au début de la conversation, Dieu et Ézéchiel, il va lui dire, « Penses-tu que ces eaux peuvent revivre? » Et j'aime la réponse d'Ézéchiel, qui à l'époque, à chapitre 37, c'est déjà un homme de Dieu, c'est déjà un pilier, un général dans le royaume de Dieu. Puis Ézéchiel va répondre une réponse pas trop sûre. Il ne va pas répondre « Oui, Seigneur, je crois. » Dieu va dire « Est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre? » Ézéchiel va dire « Ah, Seigneur, c'est toi qui sais, Seigneur. Moi, je ne sais pas. » Et alors que j'étudiais cette semaine, je me disais « Combien de fois est-ce que l'Esprit de Dieu peut venir nous dire « Est-ce que tu penses que cette relation-là pourrait vivre? Est-ce que tu penses que tu peux revivre de ce que tu as vécu dans cette saison de ta vie? » Puis la réponse qu'on a, si on est bien honnête, ressemble souvent à celle d'Ézéchiel. « Ouais, Seigneur, juste toi qui le sais. Moi, je ne le sais pas, Seigneur. Si tu me demandes si ça peut revivre, je ne le sais pas, moi, Seigneur. Toi, tu le sais, par contre. » Ézéchiel était au milieu d'une situation qui semblait sans solution, dans une réalité qui semblait sans issue. Et moi, je me demande ce matin, alors qu'on parle de la vallée des ossements desséchés, est-ce que tu as déjà traversé, ou peut-être tu traverses en ce moment, une période que tu dirais, moi, ça ressemble à une vallée d'ossements desséchés. Ça ressemble, lorsque je regarde à ma situation, ça ressemble à ça. Et si Dieu vient me demander ce matin, est-ce que cette situation-là, tu penses qu'elle peut revivre? Ma réponse va être comme Ézéchiel. Seigneur, je ne sais pas moi, mais toi, tu le sais, par exemple. Si Dieu arrive, il vient ici, il vient te rencontrer dans ta chaise ce matin et qu'il dit, regarde ta famille. Est-ce que pour toi, ça paraît comme des ossements desséchés? Est-ce que tu crois qu'elle peut revivre, cette famille-là? Est-ce que tu crois que je peux ramener la guérison, la restauration dans ta famille? Puis là, il y a plusieurs, peut-être dans ton cœur, tu dis, moi, je ne le sais pas. Je ne le sais plus. Si tu savais comment ça fait longtemps que c'est pareil, pour que les ossements soient desséchés, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis des fois, dans nos vies, c'est la même chose. On regarde des situations, on regarde des relations, on regarde des saisons qu'on a vécues, puis ça fait tellement longtemps qu'on est dans les mêmes choses. Ça fait tellement longtemps que la situation n'a pas changé, qu'il n'y a pas eu de résurrection, qu'il n'y a pas eu de restauration, qu'il n'y a même pas eu un soupçon de guérison. Puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, les ossements, que quand Dieu vient nous demander, est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre? Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que j'ai des gens honnêtes ce matin qui disent « Des fois, je me sens comme Ézéchiel. » Moi, je lève mes deux mains ce matin. Non, Seigneur, il y a juste toi qui le sais. Quand je regarde, par exemple, à toutes sortes de gens, à toutes sortes de situations, lorsque même moi, dans ma réalité comme pasteur, lorsque je regarde, lorsqu'on me parle du ministère, lorsqu'on me parle de l'implantation d'église au Québec, qui est là, on me disait, ouais, vous savez qu'au Québec, tous les pasteurs disent que leur ville, c'est le cimetière des églises. Si je vais à Trois-Rivières, on me dit, ici, c'est le cimetière des églises. Si on va à Québec, c'est le cimetière des églises. Si je m'en vais à Drummondville, c'est le cimetière des églises. À Sherbrooke, c'est le cimetière des églises. La province, c'est le cimetière des églises. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais partout, j'entends ça, les cimetières des églises, c'est le cimetière. On va pas à Québec implanter une église. C'est le cimetière des églises ici. On a essayé, ça va marcher. Envoyer des Américains, ça va marcher. Il essaie, c'est le cimetière des églises. Que moi, quand je lis Ézéchiel 37, c'est que Dieu se spécialise dans les cimetières. C'est qu'alors qu'il y a des ossements desséchés, il est capable de les ramener à la vie et que Dieu est pas intimidé par ça. Lorsqu'on fait face à des situations qui nous semblent impossibles à changer, lorsqu'on fait face à des situations qui nous semblent impossibles qu'une porte puisse s'ouvrir, on est enfermé dans une prison, on se dit « voici ma vie, voici ma réalité, ça ne changera pas ». Dieu se spécialise, Ézéchiel 37 nous prouve le potentiel de résurrection qu'il y a dans les situations même les plus impossibles. C'est ce que Dieu fait, je veux le rappeler à quelqu'un, on n'est pas juste ici pour chanter trois chants, écouter quelqu'un parler pendant 30 minutes. Ce qui est vraiment un mensonge, ça, parce que c'est plus 40-45. Mais on vient écouter quelqu'un parler puis on s'en va. Non, on vient ici parce qu'on sert le Dieu, on loue le Dieu qui se spécialise de prendre ce qui est brisé et le restaurer, qui se spécialise à prendre ce qui a été cassé et le restaurer, pas juste le rapiécer, lui redonner vie encore mieux qu'il était avant. C'est ce que Ézéchiel 37 nous communique. Il redonne vie, il rebâtit, il donne faveur. Quand dans Ézéchiel 37, on découvre ensemble que quand Dieu souffle sur quelque chose, cette chose-là va revivre. La première chose qui m'a frappé lorsque j'étudiais cette semaine ce texte-là, c'est que si on veut vivre la résurrection, pour expérimenter la résurrection, comme Jésus nous l'a promis, comme Ézéchiel dans sa vision nous le démontre, si on veut vivre la résurrection, on doit, si tu prends des notes, on doit changer notre façon de parler. Si tu prends des notes, écris le mot « langage » dans tes notes. Si on veut expérimenter la résurrection de Jésus, si on veut expérimenter les promesses reliées à la résurrection, on doit changer notre façon de parler. Je le dirais comme ça. La résurrection a un langage. Il y a une façon qu'on doit parler. Je veux te dire ce matin, surtout si tu marches avec Dieu, si tu crois en la parole de Dieu, si tu veux expérimenter les promesses de Dieu, ce que la parole de Dieu te promet, tu dois changer ta façon de parler. Et c'est ce que Dieu va montrer à Ézéchiel. Au verset 2, alors que Dieu amène Ézéchiel dans cette vision au milieu de la vallée des ossements, regardez ce qu'Ézéchiel va faire. Ézéchiel va dire, « Il me fit promener sur eux, les ossements, en tous sens. » Alors j'ai marché, j'ai vu partout. Regardez ce qu'il va dire. « J'ai constaté que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. » Qu'est-ce qu'Ézéchiel va faire dans la vision? Alors qu'il y a cette vallée remplie d'ossements, ça semble impossible, il n'y a rien qui peut revivre là-dedans. Ézéchiel arrive là, Dieu lui montre tout ça. Ce que Ézéchiel commence à faire, c'est de décrire la situation. La Bible va mettre le mot utilisé, c'est constater. Alors Ézéchiel arrive là, il constate qu'il y a des ossements qui sont desséchés, qui sont sur toute l'étendue de cette vallée-là. Mais la première chose qu'Ézéchiel fait, c'est qu'il commence à décrire ce qu'il voit. Il commence à décrire, les ossements sont innombrables, sur toute l'étendue de la vallée, et ils sont totalement desséchés. Ce que Ézéchiel fait, c'est ce que toi et moi, on fait toujours. On commence à regarder notre situation et on commence à décrire ce qu'on voit. Voici mon mariage, voici ce qui se passe, voici ce qui est arrivé, voici ce qui est arrivé dans mon passé, voici ma business, voici ce qui est arrivé. Regardez, là, on est là aujourd'hui, mais c'est à cause de ça. Et on commence à juste marcher dans nos situations, dans nos vallées, au milieu de tous les ossements de nos vies, et on commence à décrire ce qu'on voit, à décrire ce qui est arrivé. Voici où je suis, voici ce qui est arrivé, voici ce qu'on m'a dit, voici ce que j'ai fait, voici ce qui se passe dans ma vie. On commence à décrire notre situation. On commence à parler de notre situation. Et si je peux être honnête, on peut être honnête ensemble, juste quelques instants, il y a juste nous en ce moment, on prend un café ensemble ce matin. C'est vraiment facile de décrire ce qu'on voit. Tout le monde est capable de décrire ce qui ne marche pas. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable de regarder à une situation qui ne fonctionne pas et de dire « ça ne marche pas ». Vous savez, nous à l'église ici, là, quand vous arrivez le matin, il y a des gens qui sont là depuis 6h15 le matin en train de tout monter. Moi, quand je vois des gens qui disent « hey, le rideau est croche », « ah ouais, le rideau est croche », n'importe qui est capable de décrire que le rideau est croche. Ça prend des gens qui se lèvent pour venir l'installer, par exemple, le rideau. Quelqu'un nous emmène, emmène de bénévoles ce matin. Oh, amen. C'est facile de regarder une situation et de juste décrire ce qu'on voit. Tout le monde est capable de faire ça. N'importe qui est capable de regarder une relation qui ne fonctionne pas et dire « la relation ne marche pas ». Il y a quelque chose qui ne marche pas. N'importe qui est capable de regarder à son mariage et dire « ça ne marche pas parce qu'il est de même, parce que lui est comme ça, voici ce qui est arrivé. » N'importe qui peut regarder à une église qui ne fonctionne pas et juste commencer à pointer du doigt tout ce qui ne marche pas. N'importe qui est capable de pouvoir regarder au manque de ressources et dire « il manque des ressources, il manque des finances, il manque de choses, il manque... » N'importe qui est capable de décrire ce qu'il voit. N'importe qui est capable de constater les choses. Mais Dieu va amener Ézéchiel, et je prie ce matin, qu'il t'amène toi et qu'il m'amène moi à changer notre façon de parler. Où je ne veux pas simplement décrire ce que je vois. Et Dieu va appeler Ézéchiel à dire, « Maintenant, Ézéchiel, que tu as décrit ce que tu voyais, maintenant, je vais t'apprendre comment parler. » Et il y en a ce matin, je prie que tes oreilles soient ouvertes, que ton cœur soit ouvert. Parce que vient un moment où je dois arrêter de parler de ma situation et Dieu va m'appeler à parler à ma situation. Vient un moment où je dois arrêter de commencer à décrire, « Seigneur, regarde ce qui ne marche pas, regarde les ossements, ils sont là, ils sont partout, ils sont desséchés, ça ne marche pas, regarde le mariage, regarde les finances, regarde mes enfants, regarde ma job, regarde ma carrière, regarde mes études. » Vient un moment où Dieu va dire, « C'est parfait, Ézéchiel. Maintenant que tu as constaté, je vais t'apprendre comment moi je t'appelle à parler. » Il va dire, « Tu vas arrêter juste de parler de ta situation puis de la décrire en bullet point, ça va plus finir. Tu vas commencer à parler à ta situation avec ma parole et mes promesses. » Regardez ça, les versets suivants, il va dire, « Puis il me dit, maintenant que j'ai décrit la situation, Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, dit le Seigneur l'Éternel, je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. » Il y a une différence entre constater et prophétiser. Et ce matin, je vais vous appeler à prophétiser. Il y en a ici, je le sais, vous avez des racines plus traditionnelles, prophétiser. Bon, pasteur JP, qu'est-ce qui est prêt à matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? tout va être correct, tout le monde. On embarque ensemble là-dedans. Il y a une différence entre constater, versets 2 et 3. Ézéchiel, c'est ce qu'il fait. Il constate ce qu'il voit. Mais Dieu va dire, maintenant que tu as constaté ce que tu as vu, Ézéchiel, maintenant ce que tu as constaté, toi, dans ta vie, Dieu va t'appeler à prophétiser, à parler selon la parole de Dieu. Prophétiser, ça vient du mot prophète. Qui prophète veut dire parler au nom de Dieu. Un prophète, c'est un porte-parole de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Alors nous, parfois, quelqu'un qui va prophétiser, souvent, c'est une connotation de quelqu'un qui va décrire les choses du futur. Et il peut avoir clairement une portion de ça. Prophétiser peut clairement avoir une portion où ça, c'est Dieu qui déclare les choses à l'avenir. Puis il y a une portion de prophétiser qui peut être ça. Mais prophétiser ne se limite pas que à ça. Prophétiser veut littéralement dire « je parle au nom de Dieu ». Ça veut dire « je prends la parole de Dieu et je parle la parole de Dieu dans ma situation ». Et il y en a ce matin, tu vas être appelé à commencer à prophétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déclarer la parole de Dieu sur ta situation. Pas juste constater et décrire ta situation, mais commencer à parler selon la parole de Dieu à ta situation. Je m'attendais à au moins un petit amen un petit peu plus convaincant que ça à la première réunion qui manque de café. Ça s'appelle déclarer, prophétiser la parole de Dieu sur des gens, sur des relations, sur des circonstances. Dis à ton voisin pour le réveiller, t'es appelé à être un prophète. Dis ça à ton voisin avec ta voix de prédicateur, prédicatrice. T'es appelé à être un prophète. La résurrection change notre façon de parler. Lorsqu'on croit au Dieu de la résurrection, on ne voit plus les choses comme les gens les voient et on est appelé à changer notre façon de parler aussi. Je ne suis pas appelé à juste constater ce qui ne marche pas. Je suis appelé à prophétiser la parole de Dieu sur ce qui ne marche pas. Comme parent de jeunes enfants, et je n'ai pas encore traversé la saison de l'adolescence avec mes enfants, alors priez déjà d'avance pour notre famille là-dessus. Mais déjà à leur jeune âge, 6 ans et 8 ans, Emma et Jacob vont à l'école. Ils ont des amis dans le quartier. Ils font leur sport. Ils côtoient toutes sortes de choses. Et ils entendent toutes sortes de choses. Et des fois, c'est quand même assez fascinant. Juste à la maison, puis Jacob, Jacob est tellement cute, tellement, il semble tellement fin, Jacob. Mais des fois, il va sortir un mot qu'il a entendu à l'école, qu'il a entendu dans la rue avec ses amis. Puis là, c'est un mot qui n'est pas, c'est pas très vulgaire, mais c'est quand même vulgaire un peu. Puis Jacob, t'as entendu ça où, ce mot-là? Ah, ben là, c'est tel ami qui a dit ça, tel ami. Nous, on ne dit vraiment pas ça ici. Puis comme parents, je ne sais pas si c'est des parents, ça vous arrive aussi des fois de dire... Hey, langage. Est-ce que ça vous arrive, les parents? Les enfants arrivent à la maison, puis ils sortent quelque chose qui est non. Dans notre maison, on ne parle pas comme ça. Est-ce que ça arrive à des parents? Hey, langage. Hey, langage. Moi, comme parent, j'ai l'impression qu'on va le dire souvent, ça. Je découvre ça de plus en plus. Langage. On est obligé, comme parents, parfois, de corriger le langage de nos enfants. Et là, ce matin, je n'irai pas du tout dans l'aspect de parfois les parents aussi s'échappent et les enfants finissent par dire « Hey, langage! » Ça, je n'irai pas là-dedans ce matin parce que les enfants sont de l'autre côté, on peut parler d'eux pendant qu'ils ne sont pas là. Mais c'est juste nous, les parents. « Hey, langage! » Et à partir d'aujourd'hui, je vous donne le droit de reprendre les gens autour de vous dans cette église. Ou si vous entendez des gens décrire leur situation, constater leur situation, qui commencent à décrire leur situation négativement, les gens qui parlent de leur vie comme étant juste pessimistes, qui ne pourraient rien arriver, puis vous avez le droit de dire « Hey! Langage! » Nous, on croit au Dieu de la résurrection et on ne parle pas comme ça dans cette maison. On ne parle pas comme ça. Nous, on déclare la parole de Dieu, on croit les promesses de Dieu et c'est comme ça qu'on parle dans cette maison. Notre langage est différent. Alors, je veux entendre dans les prochaines semaines, « Hey, langage! » On ne parle pas comme ça, nous. Nous, on croit au Dieu de la résurrection. On parle les promesses de Dieu. On parle le langage de la parole de Dieu. On parle le langage du Dieu qui ressuscite encore des choses en nous. Alors, c'est vrai qu'il y a des ossements desséchés dans ta vie, mais on va prophétiser sur ces ossements-là et on va voir Dieu agir. Amen. On passe trop de temps à parler de notre situation et pas assez de temps à parler à nos situations. Et ce matin, Dieu m'amène jusqu'ici pour nous rappeler qu'on est appelé à prophétiser, à parler à nos situations, pas juste de nos situations. Alors, je ne sais pas c'est quoi les ossements desséchés dans ta vie, mais on sert le Dieu de la résurrection. Et ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu vienne saisir ton cœur et dire, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'ai traversé, ma vie n'est pas aussi pire que des ossements desséchés, morts qui sont dans la vallée, dans Ézéchiel 37. Dieu peut ramener des choses à la vie encore aujourd'hui, mais je veux parler le langage de Dieu. Vous n'avez aucune idée, alors qu'on est ici à 3 réunions à chaque dimanche, qu'on est là à chercher une prochaine étape pour l'Église, alors qu'on cherche quelle va être la prochaine étape, parce qu'on ne va pas juste multiplier les réunions jusqu'à ce que mort s'en suive pour toutes nos équipes. On est juste 3 réunions, 4 réunions, 5 réunions, 6 réunions, on est là. Déjà après 3, je ne me rappelle plus de mon nom. Et des fois, je ne me rappelle même plus de la date à la 3e réunion, on est quel jour de la semaine. Alors, on est là, puis on cherche une autre place, on cherche la prochaine étape pour notre Église. Puis il y a tellement de gens, vous n'en trouverez pas, à Québec, c'est vraiment difficile. Hey, votre Église, elle a juste 2 ans. Il n'y a pas d'église aussi jeune qui peut déjà penser à des projets comme vous pensez pour une salle de 600-700 personnes. Ça se fait pas. Votre église est trop jeune. Tout est trop encore pas stable. Les finances, l'adhésion des gens. Toute l'église est bien trop jeune. Il y a trop de jeunes dans l'église pour avoir un montage financier comme vous voulez le faire. Il y a zonage. C'est bien trop compliqué à Québec. Hey, le zonage. Vous pensez pas quand même aller ailleurs. Le zonage, ça marchera jamais. Vous avez aucune idée le genre de commentaires qu'on reçoit. Et moi, ce matin, je viens de dire à tous ces gens-là, Langage! Oh, vous devriez applaudir plus que ça! On sert le Dieu de la résurrection! J'en ai rien à faire du zonage! J'en ai rien à faire! Ce message est enregistré, j'en ai rien à faire du zonage! J'en ai rien à faire que l'Église est jeune! Si Dieu souffle sur son Église, il n'y a aucune porte fermée qui va pouvoir résister. Il n'y a rien de mort qui ne pourra pas revivre. Alors, on parle le langage des promesses et de la puissance de Dieu dans cette Église. C'est ça notre langage. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui vient me voir dans le hall, je vais juste vous le dire d'avance. Pasteur, c'est un beau message, mais tu ne connais pas ma vie à moi. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas ma situation. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas ce que j'ai subi. Je vais vous dire avec beaucoup d'amour et plein de grâce, je vais prier avec vous jusqu'aux larmes s'il faut ce matin. Ça me dérange pas si je ne le connais pas, ton passé. Je connais le Dieu que je sers, par exemple. Et peu importe ce qui t'est arrivé, il peut ramener à la vie ce qui était mort. Alors, on va prier ensemble. On va le croire ensemble. Si Dieu souffle sur ta vie, il n'y a rien qui peut résister. Rien qui peut résister. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir d'ici en prenant la décision de dire, à partir d'aujourd'hui, je veux parler le langage de Dieu dans ma vie. Je veux regarder aux sphères de ma vie qui ne marchent pas, qui ressemblent à des ossements desséchés. Je veux dire, Seigneur, apprends-moi à parler comme toi tu parles. Apprends-moi à prophétiser, à déclarer ta parole, à déclarer tes promesses. Même si mes yeux voient juste des ossements, apprends-moi à parler en fonction de ta parole et de tes promesses. J'avais juste 2 points ce matin, mais c'est pas moins long. La résurrection de Dieu doit changer notre façon de parler. Va nous amener à changer. Si on croit vraiment au Dieu de la résurrection qui peut ramener des choses qui étaient mortes en nous à la vie, il faut changer notre façon de parler. Si on veut vivre le témoignage de la résurrection, il y a un verset qui m'a vraiment frappé cette semaine, au chapitre 37. C'est mon deuxième et dernier point. Il y a un langage de la résurrection, mais pour qu'on puisse vivre le témoignage de la résurrection. C'est pas juste le message de la résurrection, c'est pas juste du jargon d'église. Le message de la résurrection, c'est pas juste on va prophétiser dans les airs des promesses, puis on va prophétiser dans les airs la parole de Dieu. Puis c'est une façon de parler, c'est une espèce de jargon d'église. Si on se parle comme ça, la résurrection, c'est pour qu'on puisse vivre des réels témoignages de résurrection. C'est pas juste une façon de parler entre nous dans ces 4 murs-là pendant 1h30 le dimanche. La résurrection, c'est pour qu'on puisse vivre des témoignages. Le verset 14 d'Ézéchiel 37 a dit ceci, ça m'a vraiment frappé. C'est comme si Dieu nous parle jusqu'à nous aujourd'hui puis il dit « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, regardez ça, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. » Et c'est comme si Dieu me saisissait cette semaine en disant « La résurrection, ce n'est pas juste une façon de parler. » C'est pas juste des chants qu'on chante du bout des lèvres. C'est pas juste le prédicateur qui déclare des choses le dimanche matin. Dieu dit non. J'ai parlé, oui, il y a un langage de la résurrection. Mais Dieu agit aussi encore aujourd'hui. Et le langage de la résurrection, ce n'est pas juste pour qu'on soit, on se motive ensemble pendant 1h30 le dimanche. C'est pour dire, Seigneur, on veut vivre des témoignages. On veut être capable de pointer dans des sphères de nos vies, dans des saisons de nos vies, et dire, regardez ce que Dieu a ramené à la vie. Ce n'est pas juste une façon de parler, c'est le témoignage de nos vies. Et alors que Dieu commence à amener Ézéchiel à parler la parole de Dieu, les promesses de Dieu, il commence à restaurer. C'est vraiment fascinant, verset 8. Il dit, pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux, sur les ossements qui étaient là, des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. C'est vraiment fascinant parce qu'on lit ça au verset 8, tout semblait là. Les nerfs sont là, les muscles sont là, la peau même vient recouvrir tout ça. Mais il n'y a pas d'esprit en eux. Ils ont l'apparence d'être vivants, mais sont morts en dedans. Je ne sais pas si tu me suis encore ce matin. Et partout dans Ézéchiel 37, lorsque tu vas lire le mot « esprit », on fait un petit cours biblique 101 ce matin. Partout, vous allez lire le mot « esprit » et partout, vous allez lire le mot « souffle ». C'est le même mot en hébreu. C'est le mot « ruach ». Testez votre hébreu ce matin. Tout le monde dit « ruach ». C'est très bien, c'est très bon. C'est comme si Dieu est en train de les former. Puis Ézéchiel constate, les nerfs sont là, tout est là, les muscles, la peau. Ils ont l'apparence d'être vivants, mais il manque le ruach, le souffle de Dieu en eux. Alors, ils ont tous les morceaux, tout est là. Tu sais, ce verset décrit tellement bien le monde dans lequel on est. Ce verset-là décrit tellement bien combien les gens, parfois, à quoi ils peuvent ressembler. Ce verset-là décrit parfaitement même à quoi certaines églises peuvent ressembler, où tous les morceaux semblent là. Tout est là. Le monde dans lequel on vit, si on regarde la vie des gens autour de nous, tout semble là. Tous les morceaux sont là. Ils ont leur carrière, ils ont leurs finances, ils ont leur voiture. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont l'air d'avoir vivre leur best life. Tout est parfait. Tout est là. Les morceaux, tout semble là. Mais il n'y a pas le ruach de Dieu en eux. Ils ont l'apparence d'être vivants, mais sont morts en dedans. Et ça, c'est le cas de plein de gens, mais c'est aussi le cas de plein d'églises qui ont motivé notre vision, notre cœur d'implanter cette église à Québec. On vient pas juste rajouter une autre église pour rajouter une église. On prie qu'une église comme la nôtre puisse être une église, pas juste qui a l'air d'avoir tous les morceaux, mais que ce soit une église qui a l'Esprit de Dieu en elle. C'est pas juste qu'elle a tous les morceaux. Je veux pas d'une église qui a... Ah, regarde, eux autres, ils ont un bâtiment, ouais, ils ont les morceaux, comme... Hey. Les nerfs, les muscles, la peau étaient là, le bâtiment était là, l'organisation était là, le comité, tous les comités partout sont là. Il y a à peu près 84 comités dans cette église-là. Tous les morceaux sont là, ils font des chants, il y a un message, il y a tout, mais il n'y a pas de souffle en dedans. C'est l'image dans Ézéchiel chapitre 37. Et Dieu va démontrer à Ézéchiel l'intention de Dieu, c'est pas juste qu'on ait l'apparence d'être vivant. Mais c'est qu'on soit vivant pour vrai à l'intérieur. C'est que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, le ruach de Dieu soit dans nos vies et dans son Église. C'est la vision de Dieu, c'est notre témoignage. C'est pas seulement juste une façon de parler. C'est l'Esprit de Dieu qui vient donner vie à nos vies et à son Église. Est-ce que vous êtes encore capable de deux derniers versets? Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, le ruach de Dieu. » Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle. C'est le ruach, c'est le même mot. Tous ces morts pour qu'ils revivent. J'ai prophétisé donc, comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux. Et c'est ma prière pour toi ce matin. Que l'Esprit entre en toi. Que le ruach de Dieu percute ta vie ce matin. Que le ruach de Dieu percute notre église ce matin. Pour pas qu'on ait juste à avoir l'air dans nos vies et dans notre église d'avoir tous les morceaux, mais que l'Esprit de Dieu, la vie de l'Esprit, que le ruach de Dieu soit en nous pour qu'on soit vivant pour vrai. Que la résurrection soit là pour vrai. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et comme prophétiquement dans cette église, ça va devenir une immense armée. Et moi, je veux prophétiser ce matin sur ta vie, sur notre église. Je veux prophétiser ce matin qu'il y a des choses en toi que tu avais abandonnées. Il y a des choses ce matin que tu avais dit, ça ne sera pas pour moi. Moi, je ne pourrai jamais me relever de ça. Je prophétise que le ruach de Dieu va rentrer dans ta vie ce matin. Que l'Esprit de Dieu va percuter ta vie ce matin. Peu importe à quel point tu es sceptique, peu importe à quel point tu es rentré ici et tu ne crois pas ce que je dis, je prie que l'Esprit de Dieu te renverse sur ta chaise un matin. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne te percuter tellement fort que tu dis, je ne comprends rien de ce qui se passe, mais l'Esprit de Dieu rentre en moi. Il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la résurrection qui est en moi. Parce que quand le Dieu souffle sur quelqu'un, même si tu es sceptique, l'Esprit va te percuter.
Même si tu as de la misère à croire, Ézéchiel, il dit, est-ce que ça peut revivre? Je suis pas sûr, Seigneur, mais toi, tu le sais. Ézéchiel lui-même, c'était pas le capitaine de l'équipe de la foi dans ce chapitre-là. Là. Est-ce qu'ils peuvent revivre? Ah, pas sûr, mais toi, tu le sais. Ézéchiel a quand même été utilisé par Dieu pour voir toute cette armée-là se lever. Alors ce matin, moi, j'ai prié que l'Esprit de Dieu souffle sur toi, que l'Esprit de Dieu souffle sur notre Église, que le rouage de Dieu percute notre Église, parce que quand Dieu souffle, la résurrection arrive. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut devenir. C'est le témoignage de notre Église jusqu'à maintenant. Et je veux protéger ça, je veux que ça reste comme ça. Notre Église, après un petit peu plus de 2 ans, c'est notre témoignage. Quand on nous disait « ça ne marchera pas, pas à Québec, ça ne pourra pas être là, vous n'arrivez jamais à bâtir une église comme ça, vous avez bien trop de jeunes, vous n'arriverez pas à bâtir une église comme ça, vous l'avez plantée en pandémie, cette église-là. » Parce qu'il y avait un peu de vrai là-dedans. Vous disiez « ouais, c'est vrai que ça, est-ce que ça peut revivre? » Pas sûr que ça va marcher, moi-même. On n'est pas sûr de ça. Mais quand on avait une réunion, puis écoutez tous les messages sur Internet, quand il y avait une réunion, qu'est-ce qu'on annonçait? On s'en va vers 2 réunions. Les gens, ouais, on leur recevait des trucs, ouais, mais vous pensez pas, ça va être trop de travail pour les bénévoles, ça va être difficile. Puis là, déjà, au Québec, il n'y a pas d'église à 2 réunions. On s'en va à 2 réunions. Parce que le roi de Dieu. À 2 réunions, qu'est-ce qu'on annonçait? Écoutez les messages en ligne, ils sont tous là. On s'en va à 3 réunions. On s'en va à 3 réunions parce que Dieu va tellement amener de gens, qui va tellement amener de gens avec, qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'être ressuscités à l'intérieur, que leur âme a besoin de Jésus. Ils cherchent Jésus partout, puis ils ne le cherchent pas, mais ils vont l'amener ici. Et 2 réunions vont devenir 3 réunions. Ça fait même pas 1 an qu'on a 3 réunions. Puis aujourd'hui, je vous annonce, non, je vous annonce pas 4 réunions, mais je vous annonce que ce soit 4 réunions, on ira, mais que ce soit un autre bâtiment, je ne sais pas quelle va être la prochaine étape, mais je vous annonce qu'on va y aller, on va foncer parce que le roi de Dieu est là. Et c'est ce qu'on veut faire, et c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et je prie que notre Église devienne, elle est déjà, mais un témoignage du rouage de Dieu. C'est pas à cause de nos méthodes, on n'en a rien à faire des méthodes. Le rouage de Dieu est plus important que les méthodes. Quand les gens, comme cette semaine, qui demandent comment ça se fait, comment vous avez fait pour être 1200 personnes après 2 ans, je ne sais pas comment on a fait. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment on fait, mais nous, on prie juste que l'Esprit de Dieu vienne dans sa maison et qu'il donne vie aux gens, qu'il ressuscite des choses. C'est ça notre stratégie, c'est ça qu'on veut faire. Faut que j'arrête parce que la deuxième réunion va juste s'enchaîner sans arrêt. Mais vous seriez renversé du nombre de témoignages qu'on reçoit. Je vais juste vous lire le témoignage. J'en lis juste un. J'en avais 4. J'en lis juste un. Les deux, tout le reste, ce sera pour les autres réunions. Vous revenez tantôt. Le témoignage, quand Dieu souffle sur la vie de quelqu'un, la résurrection n'a pas le choix d'arriver. J'ai reçu un témoignage de quelques semaines, 2 semaines de ça. D'une jeune famille, puis d'un petit bébé qui s'appelle Sarah, dans notre église. Puis ils vont être ici ce matin, ils m'ont donné la permission de partager leur témoignage. Puis alors qu'ils m'ont écrit ce témoignage-là, je t'ai juste renversé d'à quel point on n'a aucune idée ce que Dieu fait. Il n'y a aucune idée ce qui prend place sur la chaise à côté de toi, dans le cœur de la personne. Puis eux me raconteraient leur histoire, puis m'ont envoyé un courriel que je vais juste vous le lire tel qu'ils me l'ont envoyé. Puis alors qu'ils me racontaient leur histoire, leur témoignage de résurrection, ils m'écrivaient Samuel, ils m'écrivaient... Il y a quelques mois, ma conjointe était enceinte et nous avons reçu le diagnostic que notre bébé ne se développait pas correctement. Elle n'avait pas de paroi thoracique. En d'autres termes, son petit cœur était libre, sans rien pour le retenir. Nous avons fait plusieurs examens dont certains ont été envoyés aux États-Unis, mais personne n'avait de réponse à nous donner. La seule certitude était que le bébé n'avait pas de paroi thoracique et qu'il était en danger. Le médecin a insisté pour procéder à l'avortement, affirmant qu'il était impossible jusqu'au rouac de Dieu, qu'il était impossible que le bébé naisse prévoyant sa mort encore dans l'utérus ou au maximum pendant l'accouchement, ce qui pourrait également mettre la mère en danger. Nous avons refusé l'avortement et nous avons continué à être suivis pour une grossesse à très haut risque. Ma femme et moi étions dévastés par cette situation. On a passé plusieurs jours en prière et en pleurs. Nous sommes allés à l'église et le message était la puissance d'une promesse. Et ce jour-là, le pasteur a prêché sur le Seigneur ayant fait un miracle dans la vie d'Abraham et de Sarah, accomplissant ici sa promesse, même si Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. À ce moment-là, nous avons eu la certitude que le Seigneur ferait un miracle. Et lorsque je parlais avec eux, un à un, ils me disaient ça, à ce moment-là, c'est comme si l'Esprit de Dieu les a saisis. Ils ont eu la certitude que le Seigneur ferait un miracle pour notre bébé. Et nous avons décidé de laisser Dieu prendre le contrôle. Quelques semaines plus tard, nous avons fait une nouvelle échographie et le bébé avait maintenant une paroi thoracique. Attendez un instant. Gardez ça pour la fin. OK, ça s'en vient. Son cœur est en sécurité. nous avons appris que la grossesse n'était plus considérée comme attrait au risque. Donc, à ce moment-là, nous avons décidé d'appeler le bébé Sarah, car le Seigneur avait accompli sa parole. En octobre dernier, Sarah est née un peu prématurée, mais son cœur et sa paroi thoracique est en parfait état, un véritable miracle, une preuve vivante de l'amour de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir accompli sa parole et nous sommes reconnaissants au pasteur d'avoir prêché la promesse de Dieu ce jour-là. Il termine en me disant « Partagez notre histoire, car Dieu fait encore des miracles en 2024. » Et est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de notre Église. Commence à le croire pour ta propre vie.